6 de ce cours Microsoft Virtual Academy, dans lequel vous apprenez à créer une page HTML et à la mettre en forme avec une feuille de style CSS. Je m'appelle Étienne Margrave, je suis évangéliste technique chez Microsoft France et vous pouvez me contacter sur Twitter si vous avez une question en utilisant @multa. Dans le module précédent, on a parlé du texte, des paragraphes, ce genre de choses, et cette fois-ci, on va parler un petit peu plus de comment définir la structure de son document. Donc on va voir comment définir les différents éléments, comment définir les titres, ce genre de choses, et comment structurer cette page réellement pour que ça donne une information supplémentaire encore à la personne qui va le lire, que ce soit le navigateur, un être humain, ou encore une fois un moteur de recherche ou équivalent. Alors on va démarrer en utilisant dans le répertoire que vous avez, leçon 6, que vous retrouverez à télécharger avec ce cours, on va ouvrir ce fichier HTML, leçon6.html, qui contient un certain nombre de choses. Vous allez voir qu'il est relativement simple, puisqu'en fait, on a ici une liste d'entêtes, une liste de headers, qui sont H1 jusqu'à H6, puisque ça existe déjà, hein, ça existe, c'est défini de H1 à H6, ça existe déjà, qui vont nous permettre de définir ces fameux titres. Alors si on va justement, premier réflexe, hein, quand on ne connaît pas quelque chose, premier réflexe que j'essaye de vous donner, c'est d'aller dans w3.org et puis de chercher. Donc ça va être, on va chercher the H1 elements, donc H1, H2 jusqu'à H6. Si je clique dessus, contrôle-clic, j'ouvre dans un nouvel onglet, je vais fermer ma petite fenêtre de recherche, voilà. Si on vient là-dedans, on voit que ça représente tout simplement des sections d'entête, des heading sections en anglais, donc l'entête des sections plutôt. Et donc en fait, c'est les titres. C'est comme quand on a un document, un cours ou vous pouvez retrouver ça dans un livre par exemple, ou ça se voit souvent surtout dans des cours en fait où on a un titre, un sous-titre, ce genre de choses. Donc tous ces documents là, on fait ça beaucoup dans Word où on a ces différentes entêtes qui chacune ont une signification différente. Et donc le fait qu'on ait 1 à 6, très longtemps on aurait pu penser, enfin si vous commencez tout seul à faire de l'HTML, pourriez-vous dire que H1 c'est plus gros, H6 c'est plus petit. C'est pas tout à fait ça l'idée. L'idée c'est de se dire que H1 c'est l'élément le plus important dans le titre. Et puis on va ensuite avoir des éléments les uns en dessous des autres en niveau d'importance, donc H2, H3, H4, H5. Donc H2 est moins important qu'H1, c'est un sous-titre d'H1 si vous voulez le voir comme ça. H3 est moins important qu'H2, etc., etc. Et donc au final, ça donne une information supplémentaire. On voit ici, hein, on a un titre H1, et puis on a encore un titre H1 à l'intérieur. Ça donne une information supplémentaire au navigateur pour savoir comment justement est structurée cette page-là. Et puis ça nous servira évidemment à faire de la mise en forme de ces titres-là pour leur donner une importance relative et différente. Ce qui est important dans cet exemple-là, on prend le premier exemple, on a simplement un body, vous voyez que ça va de là à là, voilà. On a un body qui contient des titres, donc on a un H1, H2, H2, H2 qui sont peuvent être vus comme des sous-titres de celui-là, puis le H3 qui est un sous-ensemble de H2 qui est juste situé ici. C'est généralement comme ça qu'on le comprend. Ils sont situés là-dedans. Et on peut très bien donner une importance différente si jamais on a des parties et des sous-parties. Donc on reviendra là-dessus plus tard, mais ici on a un body, donc qui est du coup là où on met notre code, hein, vous le savez maintenant très bien. On a un premier titre qui est, appelons ça une surface d'affichage. Puis on a une section, puis on a une autre section, puis on en a une autre, puis on en a une autre, etc. qui chacun vont contenir aussi un titre H1, même si au final c'est certainement une sous-section au body principal. C'est pas très grave puisque dans une section particulière ou dans un article particulier, on peut avoir des titres et des sous-titres si nécessaire. Ça pose absolument aucun problème et on pourra leur donner un style différent par la suite. Donc si on revient un petit peu sur notre code ici et qu'on affiche cette page dans un navigateur, donc je vais l'ouvrir. leçon6.html, je l'ouvre dans Microsoft Edge et on voit que par défaut, le navigateur, il a une manière d'afficher ses titres. Je me répète pour la millième fois peut-être pendant ce cours, l'objectif n'est pas par défaut, enfin l'objectif premier n'est pas de faire de la mise en forme, c'est réellement de donner une importance différente. Quand on utilisera ensuite les feuilles de style, on pourra très bien faire en sorte que le H1 s'affiche plus petit que H6. C'est absolument possible, ça pose pas du tout de problème technique pour le réaliser. Évidemment, généralement, il faut rester cohérent avec ce que l'habitude de voir un lecteur et un être humain, c'est que plus quelque chose est important, plus c'est gros, donc les titres vont généralement rester plus gros, ou en tout cas, ils auront une mise en forme différente. On peut jouer aussi peut-être sur la graisse de la police, qui qui définit si elle est plus ou moins gras, affichée plus ou moins en gras, et donc dire que une police sera plus toujours, enfin que les titres H1, H2, H3 jusqu'à 6 auront tous la même taille, mais par contre ils sont de moins en moins gras, ou ils seront un dégradé de couleur qui va leur donner une importance différente, en ayant H1 qui sera par exemple le plus coloré ou qui s'affichera le mieux. Donc voilà la manière dont on va définir les entêtes. Ces entêtes-là, on peut également, enfin, on peut les compléter avec des sections. Alors on peut les mettre dans n'importe quel ordre, hein, H1, H2, H3, H4, il n'y a pas du tout de souci. Et on peut les compléter avec donc justement ces articles et ces sections. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais retourner là-dedans et puis chercher the section element qui se situe juste ici. Et on va en prendre deux puisqu'on va prendre la section et on va prendre l'article. Allons-y. Donc, on va retrouver là-dedans la section qui représente une portion générique du document. Donc, ça n'a pas forcément une signification particulière, mais c'est utilisé pour regrouper un ensemble de contenus qui peuvent être tout un tas de choses, des paragraphes, du texte, des listes, tout ce qu'on veut, mais qui ont un thème qui sera le même, qui ont un thème identique et qui sont logiques d'être regroupés ensemble. Donc on aura par exemple, si vous avez un ensemble d'articles dans une même page qui vont concerner des fleurs, et puis ensuite une autre suite d'articles qui vont concerner les différents types de macadam par exemple, ben vous allez chacun leur donner une section différente, parce que vous avez décidé de les grouper ensemble, de grouper ces éléments. Donc ça, encore une fois, ça reste à votre propre appréciation, c'est à vous de définir qu'est-ce qui est groupé, qu'est-ce qui n'est pas groupé. Vous pouvez très bien avoir une seule section par page, vous pouvez d'ailleurs ne pas avoir de section, mais vous pouvez en avoir une seule si besoin. L'intérêt que ça aura, c'est que ces sections-là, elles sont ensuite regroupées d'une certaine manière. Vous voyez ici que les auteurs de ce document encouragent les gens à utiliser plutôt articles à la place de sections. Donc c'est pas incohérent, on peut très bien les utiliser, mais généralement on a plutôt l'habitude d'utiliser des articles. Alors ces articles, si on revient dessus, puisque c'est ça qui va nous intéresser principalement, ces articles, on va les retrouver ici. Je cherche la définition qui se situe à cet endroit-là. Alors là, je suis dans body, je suis allé trop bas peut-être. The body element. Alors je cherchais article. Voilà. Je vais y retourner. Je vais cliquer sur le mauvais. Donc un article, ça compose, ça contient, pardon, un ensemble cohérent d'informations par rapport à un élément particulier dans la page. Donc, son nom est assez clair, on peut très bien se le représenter, on peut très bien imaginer que, par exemple, on a un article de blog, on en aura plusieurs dans une page, et on aura plusieurs éléments articles qui seront contenus les uns en dessous des autres, et qui seront situés là-dedans. Et du coup, ça permet de faire plusieurs choses. Ça va permettre, et ça c'est très important parce que c'est utilisé souvent, ça permet au moteur de recherche de savoir qu'il y a des articles à l'intérieur, et donc ça parle de contenu qui peut être lu et qui est intéressant, et qui est un type de contenu particulier. Et vous, ça vous permettra de faire encore une fois la mise en forme dans une feuille de style CSS. Donc si on revient un petit peu à cet endroit-là, et puis qu'on essaie de faire un petit exemple, on peut très bien avoir, je vais enlever tout ça, parce que c'est pas forcément intéressant ici. Donc on peut très bien imaginer que on a, ou d'ailleurs on va le garder, pourquoi pas, on va imaginer qu'ici on aura une section, une première section dans la page, qui contiendra potentiellement plusieurs articles. Ici ça n'en contiendra qu'un seul. Je vais revenir à la ligne, voilà. Et puis à l'intérieur de cette section, j'aurai un article. Ça commencera avec un article. Voilà, tout simplement. Puis dans cet article, potentiellement que j'ai. J'ai potentiellement un titre qui sera mon titre de mon article, et puis j'ai des paragraphes avec du texte à l'intérieur, donc peu importe ce qu'on est dedans, mais il y aura du texte certainement. Et puis cet article-là, bah, j'en aurai peut-être un deuxième dans ma section, potentiellement. Et donc je vais rajouter un article en dessous avec un autre titre qui sera titre 2, blablabla, qui voudra dire autre chose avec un autre texte. Et puis là, c'est très simple, mais imaginez que dans l'article on a des paragraphes, des liens, des listes, tout ce qu'on a envie et tout ce dont on a besoin. Et donc, c'est grâce à ça qu'on pourra ensuite faire la mise en forme et les chercher plus facilement, accéder plus facilement à ce contenu-là. On a d'autres informations également dans la structure de la page. Et pour ça, je vais revenir ici. Et puis, je vais chercher the aside element. Donc, il y a certains cas où on a des informations qu'on va mettre à côté d'autres, qui seront situés à d'autres endroits. Et donc, pour ça, on a, si je reviens ici, hein, on a l'élément aside. Donc situé à d'autres endroits, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une information qui apporte un contenu qui est relativement associé au contenu de la page, ou au contenu de l'élément dans lequel il est, mais qui n'est pas une information principale. Je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez un magazine, de temps en temps, vous avez un article, et puis vous avez des petits encarts à côté qui vous donnent des informations complémentaires. Par exemple, si vous êtes en train de lire un magazine sur, une œuvre d'un artiste, vous pouvez avoir un tout petit encart qui vous dira un tout petit peu la biographie de cet artiste-là, qui vous donne une information qui n'est pas directement liée à l'article, puisque lui parle de l'œuvre de l'artiste, mais qui par contre y est liée d'une manière ou d'une autre et qui peut vous intéresser, puisque ça concerne quand même le sujet qu'on est en train de traiter. C'est pas le sujet principal, mais ça le concerne. Et bien, pour faire ça, on utilise l'élément aside. Donc je prends un exemple ici. On a un paragraphe qui se situe à cet endroit-là, et puis qui parle d'un certain nombre de choses. Et puis on a une information complémentaire, mais qui se situe à côté, qu'on va définir en utilisant aside à cet endroit-là, et qui va définir tout simplement des choses en plus. Ici, c'est les gens me demandent ce que je fais pour m'amuser quand je suis pas au travail, etc. Puis on donne des informations par rapport à autre chose, alors qu'il était en train de parler justement de son entreprise et de ce qu'il était en train de faire au quotidien. Il donne une information complémentaire parce qu'il pense que c'est lié un tout petit peu à ça, même si ça n'a pas de lien direct. Donc ça, c'est l'élément aside. Donc on en a d'autres qui existent. On a l'élément div. Alors l'élément div, on va le définir ici. Je vais le définir à cet endroit-là. Voilà, div. Donc cet élément-là, c'est comme span. C'est exactement le même principe que span. Il n'a aucune signification sémantique. Zéro. C'est-à-dire qu'il n'a pour seul objectif de grouper des éléments les uns ensemble, les uns avec les autres. Donc je définis un paragraphe, slash p, je peux définir un lien, par exemple, donc je ne mets pas tout dedans, mais vous comprenez le principe, je peux mettre ce que je veux à l'intérieur, et son seul intérêt, c'est de pouvoir représenter les sous-éléments qu'il a, donc de les grouper ensemble, et de définir du style associé à ça, puisque ça n'aura aucun impact. La seule différence qu'il y a entre span et div, c'est que par défaut, le comportement de span, c'est qu'il va afficher de l'HTML, il va s'afficher en ligne, inline. Donc si on met plusieurs spans les uns à côté des autres, par défaut, il n'y aura pas de retour à la ligne, donc le span sera dans le texte tel quel. Alors que si on met un div, par défaut, ils ont un affichage de type bloc, qui fait qu'ils vont revenir à la ligne après chacun de ces divs-là, et donc il y aura un comportement par défaut qui est différent. Mais encore une fois, c'est que par défaut, on peut tout à fait le changer en style. Alors, petite parenthèse ici, quand on fait de la mise en forme d'une page, puisque pour l'instant on a du texte très linéaire, on n'a pas des menus, des choses comme ça, on verra pas forcément ça dans les détails dans ce cours-là, puisque vous aurez suffisamment de choses pour aller ensuite aller plus dans les détails, voir d'autres cours plus compliqués, plus complets, et avec des choses plus complexes, plus compliquées, et vous n'aurez pas forcément besoin de ça, mais quand on va faire une mise en page, quand on va faire un gabarit d'une page, ce qui était fait il y a très 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 longtemps, et qu'il faut absolument pas faire, c'est on utilisait des tableaux. On verra ça dans un module suivant. On a un tableau et on pouvait très facilement dire, bah alors là j'enlève les bordures du tableau, et donc du coup à tel endroit j'ai mon menu, ici j'ai ça, donc c'était facile de représenter une page sous forme de tableau. On le fait pas parce que c'est très compliqué de faire ensuite ce qu'on appelle du responsive, puisqu'on est bloqué dans une structure de tableau, et donc c'est très compliqué de changer l'affichage. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'avoir des éléments qu'on va positionner les uns par rapport aux autres, peu importe l'ordre dans lequel ils sont, à la limite, dans le code HTML, et puis justement de les positionner pour dire bah, mon menu s'affiche là, avec ma navigation, mon en-tête elle est là, elle s'affiche de telle manière, etc. Pendant très longtemps, avant HTML5, on utilisait des divs pour faire ça, puisqu'un div, justement, c'est un élément qui n'a pas de signification sémantique particulière, qui est là pour faire de l'affichage, et donc on avait des divs, des spans, et puis on les mettait un peu comme on voulait pour faire l'affichage ensuite en CSS. Le problème qu'on a avec ça, c'est que du coup, on se retrouve avec des pages où il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de divs à l'intérieur, et on ne comprend absolument pas, en lisant le code HTML tel quel, quelle est la signification du code. On est obligé de l'ouvrir dans une page HTML, dans un navigateur web, pardon, pour voir et deviner, ah oui, ça doit être un article, ça doit être un titre. C'est très compliqué à comprendre, du coup. Et donc, ce qui est conseillé par les gens qui ont défini HTML5, c'est de rester sur une notation sémantique, avec des articles, des titres, des H1, des sections, tous ces éléments qui sont prévus, qui signifient quelque chose, et d'appliquer la mise en forme à ces éléments-là, plutôt que de l'appliquer à des divs qui rendront le code HTML incompréhensible par la suite. C'était une petite parenthèse importante. Puis on a d'autres éléments également dont on a déjà parlé. Donc il y a nav, header et footer. Donc ça, c'est des éléments qu'on a vus dans le module 2 dans lequel vous avez créé votre code HTML. Donc nav, l'objectif de nav, c'est de faire la navigation. Donc on pourrait très bien ne pas l'utiliser, mais on l'utilise pour définir que c'est fait pour ça, ce qui permet potentiellement à des navigateurs web de faciliter cette navigation-là, ce qui permettra à et encore une fois, je me répète, mais volontairement, ce qui permettra à un moteur de recherche de savoir que ça correspond à la navigation et que c'est des pages. C'est ce qui permet, par exemple, quand on fait une recherche sur un site, je vais vous montrer, hein, Bing.com. Si je vais sur Bing.com et que je cherche Microsoft, voilà, vous allez voir ici qu'on a un certain nombre de liens qui sont situés à cet endroit-là. C'est entre autres parce qu'ils ont été définis correctement, avec une bonne sémantique, que Bing, du coup, est capable de comprendre que ces liens sont là et qu'ils font partie de choses qu'on peut naviguer, auxquelles on peut naviguer, et ça permet directement d'accéder à ces pages-là. Donc ça, c'est très important d'avoir cet élément nav qui se situe... Donc qui est juste là. Voilà. Cet élément nav, et donc on peut en avoir plusieurs dans la même page, on peut en avoir plusieurs dans des sections différentes, ça peut être dans une en-tête, ça peut être où on veut, et au final, ça contient ce qu'on veut. Donc généralement, c'est des listes, hein, on l'avait vu ça dans le module 2. On a ici une liste avec les différents liens qui sont des encres, ici, avec href égale, etc., etc. Et donc, c'est tout simplement ça qu'on a à faire. Et le fait de le mettre dans un nav fait qu'on indique au lecteur, etc., blablabla, je ne me répète pas, que c'est une barre de navigation. Et puis, on a la même chose pour les en-têtes et les pieds de page, les headers et les footers. Donc le header, c'est la même chose, on le met où on veut, on n'est pas obligé de le mettre tout en haut. Ça peut être l'en-tête d'un article, par exemple. Et on indique du coup que ça c'est l'en-tête. Et c'est ça qui potentiellement est mis en avant. Quand on fait une recherche, ben, on a l'en-tête qui va être positionnée dans le résultat de la recherche parce que c'est l'information qui résume un petit peu l'article potentiellement. Et puis on a la même chose pour les footers, qui est généralement un pied de page, mais c'est un pied de quelque chose qui peut être le bas d'un article, qui peut être le bas de la page, qui donne une information qui est une information de conclusion ou une information un petit peu annexe à la page ou à l'élément dans lequel il est défini. Voilà, on pourrait continuer comme ça, aller voir ces différents éléments énormément, il y en a encore d'autres, hein, on pourrait faire plein d'exemples. C'est très simple à comprendre, vous avez une en-tête, vous avez un pied de page, la barre de navigation, les sections, les articles. On a vu pas mal de choses pendant ce module qui permettent de donner une structure à cette page qu'on est en train de construire pour y afficher du texte à l'intérieur ensuite et des images et ce genre de choses. À bientôt pour le prochain module.